Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour partager ce temps de culte et d'adoration, de prière, ce repas du Seigneur que nous venons de prendre et aussi la parole de Dieu. Comme ça a déjà été mentionné quelques fois, nous arrivons à 7 ou 8 semaines maintenant de confinement partiel ou total pour certains. Et en me préparant pour le message de ce matin, j'ai commencé à lire les lettres que Paul, l'apôtre Paul, a écrites lorsque lui était confiné, non pas à cause d'une épidémie, mais parce qu'il était en prison. Et je l'ai lu pour voir ce qui était important pour Paul et ce que lui y pouvait dire lorsqu'il se trouvait dans une circonstance où il ne pouvait pas se réunir et voir ses frères et sœurs bien-aimés. Et j'aimerais vous lire ce matin un passage dans Philippiens, chapitre 1, les versets 1 à 11. Ce début de l'épître de Paul aux Philippiens qu'il écrit depuis quelque part en prison. Nous lisons. Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à tous les saints en Christ Jésus qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse, dans toutes mes prières pour vous, de prier avec joie, à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Il est juste que j'aie pour vous de telles pensées, parce que je vous porte dans mon cœur, et que dans mes chaînes, comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, vous participez tous à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris avec toute la tendresse du Christ Jésus. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Qu'ainsi, vous sachiez apprécier ce qui est important, afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. De sa prison, Paul veut assurer les chrétiens de Philippe de son amour et de son affection pour eux. Paul veut qu'ils sachent que malgré sa situation terrible, il est prisonnier, on se souvient, et Paul ne sait pas s'il sera libéré ou exécuté sous peu. Mais malgré sa situation terrible, il est plein de joie à cause d'eux, car il sait qu'ils sont restés fidèles à Christ malgré les difficultés et ils sont restés fidèles aussi dans leur amour pour lui. Et ce qui me frappe en lisant ce passage, ce qui me frappe le plus dans cette introduction à la lettre, c'est la mention des sujets de prière qu'a Paul pour l'église de Philippe. C'est ce que nous lisons, si vous regardez dans vos Bibles, au verset 9 à 11 de Philippiens 1. Et ces versets sont très importants, car vous le savez, nous prions pour ce qui est important pour nous, pour ce qui compte le plus. Et ce matin, nous allons passer quelques minutes à réfléchir sur cette prière de Paul pour l'église, qui révèle ce qui était le plus important pour lui. Ce qui me frappe tout d'abord, c'est ce que Paul n'inclut pas dans cette prière initiale, cette prière qu'il rapporte aux chrétiens, ce qu'il ne met pas dans cette liste de demandes pour l'Église ici. Il ne demande pas la santé pour les chrétiens, et ce malgré le fait qu'ils vivaient à une époque où la médecine ne pouvait pas faire grand-chose pour nous guérir. Il fallait dépendre vraiment pleinement de Dieu. Il ne demande pas non plus la prospérité financière pour ces chrétiens. Même si Paul mentionne dans une autre lettre qui est adressée aux Corinthiens que les églises de la Macédoine, dont faisait partie Philippe, étaient extrêmement pauvres. Il dit même qu'ils sont dans une pauvreté profonde. C'est frappant, il ne mentionne pas non plus qu'il demande la délivrance de la persécution pour ces chrétiens ou sa propre libération de prison afin de pouvoir les retrouver. Et ce malgré le fait que l'église de Philippe était bel et bien persécutée comme on le voit en lisant la suite de l'épître. J'imagine que si j'avais été à la place de Paul dans mon introduction, j'aurais dit « Je prie pour votre santé, que Dieu vous garde. Je prie que Dieu vous soutienne financièrement, vous qui êtes si pauvres et si généreux. Je prie que Dieu vous délivre de la main des persécuteurs et je prie que je pourrai vous voir bientôt. » Et en fait, nous savons que Paul priait pour ces choses, pour l'Église, et qu'il se souciait de cela. Il parle de sa détresse lorsque l'un des frères de l'Église de Philippe est venu le voir et est tombé malade. Et nous imaginons bien qu'il priait pour eux. Nous voyons Paul qui remercie Dieu pour l'assistance financière des Philippiens, lui qui était en prison, et il fallait dépendre entièrement des dons extérieurs pour prendre soin des prisonniers à l'époque. Nous savons aussi qu'il se souciait donc beaucoup des pauvres. Nous savons que Paul se souciait des persécutions et d'être libéré de prison. Il mentionne avec un ton extrêmement positif les prières de l'Église pour sa libération de prison. Donc santé, persécution, sécurité financière, ces choses n'étaient pas sans importance pour Paul. D'ailleurs, à la fin de l'épître, dans Philippiens 4, verset 6, il dit ceci, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. » Faites connaître à Dieu vos demandes. Donc, Paul ne laisse pas ces choses de côté dans sa prière parce qu'elles sont sans importance, vous savez. Mais il les laisse de côté parce que Paul veut que l'Église sache que malgré toutes les épreuves, malgré toutes les difficultés, il y a des choses plus importantes même que la santé, que la sécurité et que la stabilité financière. Relisons les versets 9 à 11. « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, et qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important, afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de la justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » Mon but pratique pour le message de ce matin est double. Premièrement, c'est que nous commencions ou continuons avec plus d'enthousiasme à prier des prières comme celles que rapporte Paul ici. Et mon but est aussi que nous cherchions encore plus et même d'abord ces choses dans nos vies de tous les jours, dans les circonstances difficiles et les circonstances plus joyeuses. Paul prie d'abord donc que l'amour de l'Église abonde. Il dit que leur amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. La chose dont l'Église avait le plus besoin, c'était l'amour. Et Paul savait qu'ils avaient déjà l'amour. Mais il prie que cet amour abonde de plus en plus. La mission du chrétien est de grandir continuellement dans l'amour. Avant le retour de Christ, nous n'arriverons jamais à un stade de maturité où nous pourrons dire « ça y est, j'aime assez, j'aime suffisamment ». Mon amour abonde suffisamment. Dieu désire nous voir continuellement grandir dans l'amour pour lui et l'amour pour notre prochain. En réalité, quelqu'un qui a marché avec Christ pendant 10 ans devrait être plus rempli d'amour que lorsque cette personne avait marché avec Dieu pendant 5 ans. Et que ce soit à nouveau le cas après 15, 20 et 30 ans. Qu'on puisse constater dans ce frère ou dans cette sœur une croissance dans l'amour. Un amour qui abonde, qui déborde de plus en plus. Paul demande cela pour les chrétiens, que dans ces circonstances difficiles, dans ce temps de séparation, leur amour continue à grandir. Et Paul, comme les autres auteurs du Nouveau Testament, lit amour et connaissance. Il parle d'un amour qui abonde en connaissance et en vraie sensibilité. Ceci peut nous surprendre si nous pensons que l'amour n'est que sentiment, n'est-ce pas? Si ce n'est que affection. Que vient faire l'intellect? Que vient faire la connaissance là-dedans? Mais il est important d'insister sur le fait que l'amour qui n'est que sentiment n'est pas l'amour chrétien. En effet, l'amour sans la connaissance de Christ et sans le discernement qui vient de Dieu est inutile. En même temps, une connaissance sans amour n'est pas chrétienne non plus. Paul enseignait même que la connaissance sans amour rendait le chrétien pire qu'avant. Dans 1 Corinthiens 8, verset 1, il dit « La connaissance enorgueillit, mais l'amour édifie. » Il faut donc les deux choses. L'amour affectueux les uns pour les autres qui est formé par la connaissance de Christ. La vraie sensibilité décrit ici probablement le discernement pour savoir comment agir ou ne pas agir conformément à l'amour de Christ dans toutes les circonstances de la vie. Cette sensibilité qui est utilisée ici, c'est l'un des attributs qui est donné à l'homme ou la femme sage dans le livre des Proverbes. C'est la personne qui sait mettre l'amour en pratique. Et cela nous rappelle donc que l'amour, on la pratique, on la met en pratique. On ne se limite pas à la ressentir. À quoi donc ressemble cet amour qui abonde en connaissances? Bon, si vous lisez la suite de Philippiens, et je vous encourage à le faire, nous verrons ce que c'est. Il s'agit de considérer et de traiter les autres de la même manière que Christ a considéré et traité les autres. Cette connaissance de la pensée de Christ et de l'amour de Dieu en Christ nous permet d'aimer les autres. Et c'est l'un des messages les plus importants de cette lettre. Dans Philippiens 2, versets 2 à 5, Paul écrira « Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Vous voulez grandir dans l'amour? Apprenez à connaître Jésus et apprenez à imiter sa pensée. C'est même la seule manière de grandir continuellement dans l'amour. L'amour s'apprend aux pieds de Jésus. C'est intéressant, vous savez, l'un des messages que nous entendons souvent dans notre culture moderne, c'est que pour pouvoir aimer les autres, il faut apprendre à s'aimer soi-même. Et c'est de notre amour propre que va déborder l'amour pour les autres. Et mes frères et sœurs, vous savez, Dieu nous dit autre chose. Dieu nous dit que pour pouvoir aimer les autres, il faut avoir la pensée de Jésus-Christ et la connaissance de son amour pour nous. Et c'est seulement ainsi que nous pourrons grandir dans l'amour. Notre amour propre, c'est une goutte d'eau qui est incapable d'abreuver les autres. Mais l'amour de Christ est un torrent qui se déverse dans le cœur de ceux qui l'ont accepté et qui ne peut que déborder sur les autres. Vous voulez grandir dans l'amour? Apprenez la pensée et l'amour de Jésus-Christ. Je prie que votre amour abonde de plus en plus. Est-ce que ça, c'est notre première priorité dans notre vie, de grandir dans l'amour, de voir les autres comme supérieurs à nous-mêmes, de les servir comme Christ les a servis, de nous humilier comme Christ s'est humilié? Bon, ça, c'est le but numéro un pour le chrétien. Est-ce que nous prions que Dieu nous aide à grandir dans l'amour jour après jour, qu'il aide l'Église à grandir dans l'amour? Ou est-ce que nous avons d'autres priorités que nous plaçons devant cela? Est-ce que nous cherchons à connaître Christ afin de justement pouvoir aimer comme lui? Je suis convaincu que nous devons avoir deux refrains dans notre vie. Le premier, c'est « Dieu m'a aimé ». Mais le deuxième doit être « Qui vais-je aimer ?» Et si ces deux questions sont toujours devant nous et dans nos prières, nous pourrons grandir dans l'amour. Paul prie que leur amour abonde en connaissance et en vraie sensibilité. Mais il continue, et qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important. Et c'est peut-être un sujet de prière peu attendu, un peu inattendu, parmi tous les sujets que Paul pourrait prier pour ses chrétiens. Est-ce que nous l'aurions dans notre palmarès du top 3 des sujets de prière? Peut-être pas. Et pourtant, cette demande est tellement importante. Paul prie qu'au milieu des calamités, de l'incertitude, de la pauvreté, des menaces et de la persécution, l'Église puisse voir clair et reconnaître ce qui est vraiment important. Et nous avons tellement besoin d'apprendre à discerner ce qui est vraiment important dans la vie. car nous sommes sans cesse tentés d'accorder de l'importance à ce qui n'en a pas, ou aux choses qui ont moins d'importance. Quand il prêchait, Jésus a passé beaucoup, beaucoup de temps à parler de cette question, à se consacrer à ce qui est le plus important et à discerner ce qui est important. Trois passages dans Matthieu. Matthieu 23, verset 23. Paul parle aux pharisiens qui sont pourtant très religieux et qui pensaient avoir les bonnes priorités. Il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans laisser de côté le reste. Sachez discerner ce qui est important. » Matthieu 16, 26, Jésus dit « Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Ou que donnera un homme en échange de son âme ? Sachez discerner ce qui est important. » Et le passage sur lequel j'ai prêché ma dernière fois, c'est Matthieu 6, versets 31 à 33. « Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous ? Ou que boirons-nous ? Ou de quoi serons-nous vêtus ? Car ceux-là, ce sont les païens qui le recherchent. Or votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Sachez discerner ce qui est important. Je travaille depuis la maison, et cela depuis très longtemps, même avant le confinement. Et une des choses que j'ai fait quand j'ai commencé, je lisais un livre qui parlait de comment organiser son travail. Et il y a une règle qui est donnée à tous ceux qui travaillent d'une manière semi-autonome. C'est chaque début de semaine ou début de journée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut noter toutes les choses qu'on a l'intention de faire. Et ensuite, il faut les trier dans deux catégories. Premièrement, il y a urgent et pas urgent. Et donc, on prend cette liste des choses à faire et on note à côté urgent et pas urgent. Et la deuxième chose qu'il faut faire, c'est prendre la liste et poser la deuxième question qui est important et pas important. Et on est obligé de répondre à cette question pour chaque tâche. Et les livres qui disent donc comment s'organiser pour le travail, dites, vous prenez cette liste et maintenant, vous prenez tous les éléments qui ne sont pas importants et vous les jetez de côté. Vous n'y pensez plus pour la semaine. Et vous vous concentrez uniquement sur ce qui est important. Nous savons faire cela dans le monde des affaires. Est-ce que nous savons faire cela pour la direction que nous donnons à notre vie, pour les priorités que nous avons dans notre pensée, notre manière d'utiliser notre argent, notre manière de consacrer notre temps? C'est ce que Paul avait fait. Paul, qui avait une carrière assez extraordinaire d'un point de vue religieux et social, dit ceci à propos de son ancienne vie dans Philippiens 3, versets 7 et 8. « Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. » Paul avait fait le bilan. Il avait écrit à côté de chaque élément important ou pas important. Et il a tout mis de côté, ce qui ne le permettait pas de gagner Christ, de le connaître et de participer à sa mort, à sa résurrection, pour la vie éternelle avec lui. Un de mes professeurs de Bible nous parlait de cette question et il nous a dit « J'ai deux fils et ça m'est égal s'ils deviennent des SDF et vivent sous un pont d'autoroute, à condition qu'ils connaissent Christ et lui sont fidèles. S'ils font cela, je serai fier d'eux. » Et ça, c'est l'attitude que Paul désire pour les chrétiens, et que nous voulons désirer aussi. De dire que les choses du monde, aussi belles qu'elles soient, sont pas les choses les plus importantes. Ce qui compte vraiment, c'est Christ, et de le connaître, et de terminer notre course avec lui. Et donc, cherchez ce qui est important, et priez que Dieu vous donne le discernement de ce qui est important. Priez que l'Église, dans son intégralité, sache apprécier ce qui est important. Car sans cela, nous ne pourrons pas terminer notre course. Je ne ferai pas long, mais pour terminer, Paul parle d'une dernière chose qu'il prie pour l'Église. Et c'est une vie transformée. Je prie que vous soyez sincères et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de la justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. L'effet de l'amour de Dieu qui grandit et qui abonde en nous. L'effet du discernement pour voir ce qui est important, cela transforme nos vies. Paul ne parle pas ici de chrétiens du dimanche, vous savez, qui viennent régulièrement au culte, qui font les prières et qui chantent les chants, et cela ne touche pas le reste de leur vie. Non, il parle de personnes qui se réunissent, oui, pour louer Dieu, mais qui chaque jour et à chaque instant de leur vie rendent gloire à Dieu par leur comportement. Ils sont purs, ils ne sont pas mélangés. C'est la même personne au culte qu'avec la famille, qu'au travail, qu'avec les amis, que seuls dans leur chambre. Ils sont irréprochables. Ils cherchent à tout instant de plaire à Dieu, de faire le bien et de fuir le mal. Mais cette vie ne consiste pas seulement à être vrai et avoir le mal en horreur, mais c'est aussi d'être rempli de fruits de la justice, c'est-à-dire d'œuvres bonnes pour servir et bénir les autres. Faire le bien en tant que chrétien, ce n'est pas une question secondaire. Ce n'est pas facultatif. C'est qui nous sommes. Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse en Éphésiens 2:10, « Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Nous avons aujourd'hui, et nous aurons encore l'occasion de faire le bien autour de nous, ces prochains jours, semaines et mois, où nous verrons pas mal de souffrances et de difficultés. Et l'appel de Dieu pour nous, ce n'est pas de l'ignorer ou simplement d'être triste, mais c'est d'être actif pour soutenir et pour aider ceux qui sont dans le besoin. Car Dieu désire que nous soyons remplis des fruits de la justice. Et nous nous posons donc cette question, quel bien Dieu m'appelle-t-il à faire? Philippiens, chapitre 1, versets 9 à 11, est une prière magnifique qui nous rappelle de ce que nous devons demander à Dieu et rechercher dans nos vies et désirer pour l'Église. Je vous demanderai donc de vous engager à prier pour ces choses pour l'Église, à prier pour ces choses pour vous-même et à les chercher dans votre vie. Pas pour quelques jours, pas pour quelques semaines, mais le reste de votre vie. Priez que notre amour abonde. Priez que nous croissions en connaissance et en discernement de ce qui est important. Et priez que nous soyons purs, irréprochables et remplis des fruits de la justice. Car si cela est vrai pour nous, nous serons des lumières pour Dieu dans ce monde et fidèles à lui jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher.
Nous allons maintenant chanter. Nous allons chanter le cantique « Nous sommes unis par une chaîne d'amour ». Car le texte dit « Nous sommes unis en Jésus-Christ, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour ».
Nous sommes unis en Jésus-Christ, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis en Jésus-Christ, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour.
Je voulais remercier Justin pour son enseignement, qui nous donne des pistes très très pratiques et qui va nous guider maintenant pour la prière finale de ce culte. Et je vous invite à prier. Père éternel, ce matin, tu nous as guidés tu nous as enseigné, tu nous as affermi, et tu as surtout encouragé à continuer dans notre vie de chaque jour comme chrétien. Merci pour l'enseignement de Philippiens qui nous donne une nouvelle lumière à travers les difficultés de chaque jour, la possibilité de nous rappeler que de ce qui est important pour toi. Père éternel, donne-nous la sagesse, la volonté de regarder ces choses importantes, de les mettre en priorité, de ne pas être parasité par les choses de la vie courante, moins importantes à tes yeux, que nous soyons prêts à faire les sacrifices nécessaires pour cela. Père, que nous soyons conscients que l'amour qui nous unit, l'amour que nous devons manifester en tant que chrétiens à ceux qui sont dans le besoin, soit aussi dans nos pensées pour les jours à venir, dans ces moments où le monde vit des moments très difficiles, des moments de carence, de manque, de difficultés financières, voire même pour se nourrir. Père éternel, nous avons confiance que tu œuvres avec nous, que tu nous soutiens. Et Père, nous voulons que nous soyons pleinement conscients que nous avons été pardonnés et que nous soyons aussi pleinement en confiance avec toi, dans ta puissance et dans tout ce que tu peux faire pour nous aider chaque jour. Père, donne-nous ta bénédiction pendant cette semaine, dans nos actions, dans notre travail, dans notre vie de chaque jour. Et Père, que nous soyons toujours prêts à remettre en Jésus-Christ tous nos fardeaux, tous nos besoins, tout ce qui nous est difficile. Et Père, nous voulons avoir cette confiance et cette espérance en une vie éternelle qui nous dépasse par rapport à notre vie de chaque jour. Et c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions. Amen.
Dans deux minutes, il y aura une petite présentation de 30 secondes qui sera très édifiante, donc restez quand même deux minutes après ces annonces. Juste pour savoir que les salutations filmées, donc on peut les présenter à la fin de notre culte, ça sera pas le cas d'aujourd'hui, mais pour l'ascension online, donc pour l'ascension, nous avons demandé à beaucoup de personnes d'envoyer des salutations pour ceux qui participent normalement à cette retraite, parce que vous savez que le jour de l'ascension, le matin, nous allons avoir un programme spécial. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est de préparer en famille ou avec d'autres individus ou seul une salutation que vous voulez donner aux églises francophones en Europe. On a reçu déjà beaucoup de salutations de d'autres églises partout en France, en Belgique, et on aimerait avoir plus de salutations de l'église de Genève et de Lausanne. Donc, s'il vous plaît, faites cela cette semaine. Avant mercredi, vous pouvez l'envoyer à Esteban. Donc, à Esteban, vos salutations pour la retraite. Encore une chose, c'est qu'il y a les groupes de maison. Donc, mardi soir, vous allez à 19h, donc celui de la famille Ruiz. Et puis, vous avez aussi avec les Smiths à 20h mardi soir. Donc, n'oubliez pas les groupes de maison. Et pour l'église de Lausanne, donc nous sommes nombreux à se rencontrer le mercredi soir à 20h. Je vous invite aussi à vous rendre cette semaine à 20h. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est Sébastien qui va vous donner quand même une ou deux annonces. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a une petite présentation.
Donc, pour Genève, n'oubliez pas que juste après le culte, il y a une réunion Zoom. Normalement, vous avez déjà reçu le lien par connexion pour la connexion par email. Nous avons les salutations de Robert McCready. C'est la première fois qu'il ne peut malheureusement pas venir depuis 20 ans. Comme l'a dit Brady, pour le moment de l'ascension, si vous voulez pouvoir y assister, pensez à vous inscrire auprès d'Esteban. Et n'oubliez pas le verset biblique juste à la fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Continuez à prendre soin de vous et passez une bonne semaine.
Bien-aimés,
aimons-nous les uns les autres.
Car l'amour est de Dieu.
Et quiconque aime
est né de Dieu.
Et connaît Dieu.
Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu.
Car Dieu est amour.
L'amour de Dieu a été manifesté envers nous.
En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde.
Afin que nous vivions par lui.
et cet amour consiste
non point en ce que nous avons aimé Dieu,
mais en ce qu'il nous a aimés
et a envoyé son Fils
en sacrifice pour le pardon de nos péchés.
Plus que tu n'as